des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis lecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter cette nouvelle émission. Des livres plein les oreilles avec toutes sortes de belles personnes qui vont venir partager avec vous leur lecture. On commencera par Madame Jeannine Vanier, on poursuivra avec Michael Delisle qui est déjà en studio. Bonjour Michael, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va.
Et puis également en seconde partie, on pourra entendre une lectrice bénévole. Il s'agit de Christine Picard, hein, c'est ça, qui a lu pour nous Les Suprêmes. C'est quelque chose. Alors voilà pour le menu du jour. Je vais tout de suite me tourner vers Jeannine Vanier qui doit déjà être au bout du téléphone. Bonjour Jeannine.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous-même?
Oui, très très bien, surtout quand je vous parle. J'aime beaucoup
le thème nouveau que vous utilisez pour l'émission.
C'est vrai, hein?
Oui,
ça
oui.
Met de bonne humeur, hein?
C'est vrai.
Jeannine, vous savez que vous êtes la nouvelle vedette de Canal M depuis qu'on a diffusé l'émission Audio Portrait, la première du nom avec vous.
Oh mon Dieu! Justement, ma petite cousine est venue aujourd'hui, puis je lui avais prêté le disque.
Oui.
Puis elle dit, je trouve ça très bien. Je suis tout à même émue, tout ça. Alors, du coup, ça a l'air que je suis la seule qui n'ai pas aimé.
Oui, parce que Madame Vanier n'a pas du tout aimé son audio-portrait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je pouvais pas faire mieux avec ça. Non, mais alors que nous, on a tous craqué en plus. Et c'est ça qui est incroyable. Vous êtes vraiment la seule.
Écoutez, ça m'encourage beaucoup quand même. C'est parce que je me faisais pas mal de reproches parce que il y avait des choses que j'avais dites. Puis je m'étais dit, mon Dieu... C'est peut-être mieux le fait de parler d'autre chose. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
Et c'est incroyable. Vous êtes dure avec vous, Jeannine. Est-ce que je peux me permettre de vous dire ça? Vous êtes dure avec vous.
Vous n'êtes pas la première qui me le dit.
Ah bon? Sans blague. Jeannine, allez, parlons littérature. Vous aviez envie de nous partager livre que je vous laisse le soin de nous présenter.
Une personne que je trouve héroïque, vraiment, vraiment. Dr Lucille Tisdale, dont on a entendu beaucoup parler il n'y a pas déjà si longtemps, mais peut-être qu'elle est en train de s'effacer dans nos mémoires maintenant, il ne faudrait pas.
Vous avez raison.
C'est une personne qui a habité chez nous, dans notre pays. Mm-hmm. Je ne me souviens plus exactement si c'était à Québec ou à Montréal, mais enfin. Et puis... On sait qu'elle était médecin, qu'elle a travaillé en Afrique.
Oui, en Ouganda notamment.
En Ouganda. Et puis que malheureusement, elle a été frappée du mal du sida parce que à cause des malades qu'elle soignait.
Exactement.
Des conditions terribles. Mais en tout cas... pour commencer, bon, elle a voulu faire des études de médecine. Tout le monde l'a désapprouvé,
oui,
évidemment.
C'est ça.
C'était pas l'époque.
On est en quoi? On est dans les années 50, hein, à peu près, Jeannine.
Oui, mais quand même, ça commençait à peine. Là, puis le monde n'était pas encore prêt à changer, comme on dit.
Oui.
Mais elle a commencé ses études quand même à l'université, je me souviens pas. Mais quand est venu le temps de faire ses stages, personne ne voulait lui faire une place.
Exactement.
Elle n'a pas pu trouver ni au Canada ni aux États-Unis. C'est seulement à Paris et à Londres qu'elle a eu deux offres pour aller. Alors, elle a décidé d'aller à Paris pour faire ses stages de médecine. Mmh. Et c'est là qu'en même temps, elle va rencontrer celui qui deviendra son futur époux,
oui.
Piero Corti, alors qui, lui, venait d'Italie. Alors, elle fait ses études, elle fait ses stages, elle le rencontre, et puis ils deviennent bien vite amis. Ils ont... Ils ont beaucoup de points en commun, ils ont pas mal le même idéal, sauf que à un moment donné, Piero Corti dit « Tu devrais venir avec moi, je sens que tu serais capable de faire aider, de m'aider dans mon travail en Afrique, et puis on pourrait faire des grandes choses. » Mais elle n'était vraiment pas prête au début. Non. Vraiment, elle ne voulait pas.
Mais au début, il lui a écrit quelque chose de très beau, en tout cas de très vrai. Il lui a dit « Je veux cheminer dans la vie avec toi, à mes côtés. Je veux que tu sois à mes côtés à l'hôpital, dans ma maison, dans ma voiture, dans mon lit, vivre avec toi le reste de ma vie. »
Oh mon Dieu, mais elle n'a pas dit oui tout de suite.
Non, hein?
Non. Mais finalement, elle a accepté d'aller passer un mois avec lui pour voir comment si elle serait capable de... C'est le travail, je pense, qui lui faisait peur. Puis je pense que peut-être qu'elle l'aimait déjà, mais elle ne s'en rendait pas compte. En tout cas...
ce sont des choses qui arrivent.
Elle est restée plus longtemps que prévu, mais elle est revenue à un moment donné à Paris, je ne me souviens plus. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, les guerres civiles et enfin beaucoup de maladies aussi. Puis se sont fait les guerriers, là, les gens qui étaient révoltés. Ils se sont emparés de tous leurs médicaments, de tout ce qu'ils avaient.
Mais ça, pour remettre un petit peu dans le contexte, si vous me permettez, Janine, c'est parce qu'au début, l'Ouganda, c'était vraiment une terre paradisiaque. Hein. D'ailleurs, on l'appelait, je ne sais plus comment, le petit paradis d'Afrique, jusqu'à ce qu'arrive le célèbre et terrible dictateur Idi Amin Dada. Et à ce moment-là, alors donc, on a assisté à une espèce de guerre civile et d'affrontement entre les hommes de ce dictateur et la population, et souvent ça se battait à sang dans leurs hôpitaux même, enfin,
personne n'était épargné, hein, puis s'ils n'avaient pas accepté de donner tout ce qu'ils avaient, ils se faisaient tuer,
c'est sûr.
Mais je ne sais pas, c'est à ce moment-là, je sais qu'elle a dû revenir à Paris pour compléter ses stages.
OK.
Et puis, c'est pendant qu'elle était à Paris qu'elle s'est rendue compte qu'il lui manquait, parce qu'elle a dû écrire. Alors, elle est retournée finalement, ils ont vécu ensemble, ils ont monté une clinique, c'est formidable quand même.
Ah oui, c'est formidable ce qu'ils ont fait.
C'était presque rien au début. Les malades attendaient à la porte, quasiment faisaient la queue. Puis ils étaient mal outillés. Il y avait des gens qui leur arrivaient, des blessés. Ils avaient... C'était des balles de plastique. C'est les armes qui étaient utilisées à ce moment-là. Puis les balles s'effritaient dans le corps. Elle est obligée, étant pas outillée suffisamment, elle est obligée d'aller chercher les résidus de balles.
Oh là là, c'est ça.
Et c'est comme ça qu'elle s'est infectée puis qu'elle a contracté.
Oui, parce que à ce moment-là, on est au début des années 80, et au début des années 80, ce sont les années terribles pour le VIH, hein, quand il fait son apparition.
Oui, c'est ça.
Et c'est là que les sidéens arrivent très, très nombreux à l'hôpital qu'elle a créé avec son mari Pierrot, quoi, Dr Tisdale.
C'est ça. Et puis, mais franchement, elle a quand même... Tout ce qu'elle a pu faire pour pouvoir continuer, elle ne voulait pas s'arrêter.
Non.
Tout ce qu'elle pouvait faire pour continuer, même, elle a réussi à faire presque autant qu'avant, là, comme travail. C'était des journées de 24 heures, quasiment.
Oui,
là.
Elle pouvait voir plus de 200 patients par jour.
Oui, et puis lui aussi, il travaillait beaucoup, puis... C'est parce qu'en fait, il y avait l'administration de ça. Il y avait tout le... Puis lui-même, en tout cas, ils ont formé des infirmiers, ils ont même formé des médecins, ils ont
Des gens rares, hein, Janine, des gens rares. D'ailleurs, c'est pour ça...
Un couple extraordinaire.
Extraordinaire, c'est peut-être aussi pour ça que ça explique le titre de ce livre, que je m'aperçois qu'on ne l'a pas donné en entier. C'est, vrai, c'est Lucille Tisdale, Docteur Courage. Hein.
C'est ça, je savais le mot courage, mais je me disais... Moi, Docteur Courage, je comprends. Puis lui, on peut en dire autant de son époux,
de
d'ailleurs.
Son époux. Parce que... Ils étaient faits pour se rencontrer, ces deux-là. Hein?
Ah oui.
Je voudrais qu'on cite l'auteur, si vous me le permettez, Janine. C'est Deborah Cowley.
Oui.
Ça s'écrit C-O-W-L-E-Y. Hein?
Oui, Deborah Cowley. On ne l'avait pas mentionné. Oui.
Mais comme ça, c'est fait.
Oui.
Docteur Tisdale, oui, c'est quelqu'un qu'il faut se remettre en mémoire, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi. On parle tellement de gens finalement affreux, sales et méchants, et qu'on en oublie des gens comme le docteur Lucille Tisdale et son époux.
Hein? Tout le monde se cherche des héros aujourd'hui, puis ils vont les chercher des fois dans des choses, je dirais, moins importantes, en tout cas moins...
Oui, mais c'est vrai. Vous n'avez absolument pas tort.
Oui.
Comme je le disais, c'est important de se les remettre en mémoire et de ne pas oublier qu'il y a d'autres Lucille Tisdale en ce moment même sur le terrain. On n'en parle peut-être pas assez non plus, mais à un moment donné, on va découvrir aussi ces gens-là. Il y a des gens qui sont en mission extraordinaire et qui font toutes ces choses-là.
Je crois qu'elle a eu le prix Nobel, non?
C'est pas le prix. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 1991.
Ça, je savais
c'est
qu'elle
sûr.
Avait eu quelque chose.
Oui,
mais...
c'est ça. Et ils avaient reçu ensemble, à un moment donné... non, c'est ça, c'est vraiment, ils ont réussi à solliciter leur gouvernement respectif et les ONG. C'est comme ça qu'ils ont obtenu énormément d'argent, entre autres, pour ouvrir leur premier hôpital. Mais en termes de prix, non, je ne pense pas, Janine. En tout cas, je ne vois ça nulle part dans mes notes.
D'accord.
Alors voilà.
Oui, en fait, je l'ai un petit peu résumé parce que
comme vous
savez, c'est un peu loin.
Mais vous l'avez très bien fait.
J'avais préféré quand même celui-là parce que j'aime beaucoup les pliés de la terre, mais je savais vraiment pas comment parce que les deux tomes sont tellement liés que
en 8 minutes ça aurait été terrible. Je vais être obligée de nous interrompre. Mon invité aujourd'hui est Michaël Delisle. Est-ce que vous avez lu le livre qui s'appelle Le feu de mon père de Michaël Delisle, Janine?
Non.
Eh bien, c'est un livre que je vous recommande et donc j'ai son auteur avec moi aujourd'hui.
Ah bon,
et vous pourrez écouter cela. C'est un livre qui m'a moi, j'appelle ça un livre coup de poing, pour moi. En tout cas, c'est un livre qui m'a touchée. Voilà, alors j'ai bien hâte d'en parler avec Michaël. Du coup, il faut que je vous laisse.
D'accord.
On va se retrouver très bientôt sur les ondes.
Entendu.
Je vous embrasse.
Bonne fin de journée.
Bisous. Au revoir. Bonjour, Michaël Delisle. Elle est charmante, hein, Janine Vanier.
Oui, j'ai beaucoup aimé son commentaire.
On a juste envie de l'entendre et de l'entendre encore. Un tout petit bout de bonne femme, mais tellement adorable et tellement dure avec elle-même.
Ah.
Michaël Delisle, je suis vraiment très contente de vous recevoir à cette émission. Le feu de mon père, je pense, a été l'un des livres les plus cités. À mon émission depuis 2 ans et demi que j'anime, en tout cas là, depuis l'an dernier, là, depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a reçu, je le rappelle, le prix des libraires en 2014. Oui, lorsque je demandais aux gens quel est le livre qui vous a marqué depuis, et régulièrement, les gens arrivaient avec Le feu de mon père ou encore avec l'album Multicolore de Louise Dupré, que j'ai reçu.
C'est vrai que c'est une année où le thème a été important. Hélène Dorion a parlé de sa mère, Louise Dupré, avec sa mère aussi.
Sa mère aussi. Francine Ruelle aussi.
Francine Ruelle aussi avec la Flamme en rose.
Oui. Je l'ai reçu aussi.
Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est générationnel aussi parce qu'on est rendu là.
Exactement. Monsieur Lalonde aussi. Robert Lalonde.
C'est vrai.
Hein, encore un autre.
C'est vrai.
Mais là, c'est Michaël Delisle. C'est plutôt vers papa qu'on se tourne.
Oui, c'est vers papa. Et c'est ça. J'ai pas, fait ça pour profiter de la veine. C'est vraiment un livre qui est
Non, mais
c'est une surprise dans mon parcours. Je le dis, je pensais pas faire ce livre-là. J'écris depuis une trentaine d'années, je fais des poèmes, des romans, des nouvelles. Et ça, c'est des petits textes, des réflexions que je faisais sur, que j'écrivais sur la poésie, que je mettais de côté. Et puis, je me suis rendu compte que dans ces réflexions-là, parce que c'est un livre hybride, hein, c'est pas témoignage, c'est des réflexions sur la poésie, c'est un témoignage sur mon enfance. Oui. Le personnage du père s'impose, mettons un peu, au fil des pages. Et je me suis rendu compte, c'est ça, que à toutes les fois que je parlais de poésie, je parlais de silence, et parler de silence, ça m'amenait à parler de mon père. Donc, il y avait quelque chose d'un peu d'inconscient là-dedans. Je me suis retrouvé un petit peu, malgré moi, avec un livre fait.
Avec
à un moment donné, oui. Parce que j'ai... puis il y a aussi des événements qui sont arrivés. Là, mon père a eu un accident il y a 2-3 ans. Et j'ai été obligé de m'occuper un peu de ces choses. Puis c'est, à un moment donné, les réflexions puis les souvenirs d'enfance deviennent un peu du journal de ce qui se passe. On est un peu au fur et à mesure des événements. Et puis, ça...
Mais enfin, c'est pas une famille banale, quand même, que vous avez.
Ben non.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, vous avez un bagage génétique.
Oui, peut-être.
Il dit oui, peut-être, voulez-vous.
Mais c'est parce que quand on est à la maison, on le sait pas, ça. On le sait pas. C'est quand on sort de la maison qu'on se rend compte que c'est pas normal, tout ça. Puis, j'ai encore le réflexe d'être étonné quand on me dit que c'est une histoire effarante. Je dis, ben non, c'était comme ça à la maison.
Oui, mais attendez, il faut que je retrouve cet extrait là où vous... Je l'avais noté, où vous nous dites exactement d'où vous venez finalement, le père, ou est-ce que c'est le père de votre mère qui était un petit larcin, un petit truand?
Ah oui, oui. Bon, je viens de Ville-Jacques-Cartier, c'était pas une ville de notables.
Non, c'est
une
ça.
Ville où la criminalité était très ordinaire, très répandue.
Alors, le père de ma mère, si vous me le permettez, le père de ma mère volait des petits vols à l'usine qu'il racontait avec une fierté malicieuse. La mère de ma mère fraudait aux élections en faisant des télégraphes. D'ailleurs, vous rappelez ce que c'est? C'est une fraude consistant à voter sous le nom d'un autre. Sa sœur aînée avait déjà été complice dans un hold-up de restaurant où elle était caissière. Quand ma mère nous racontait ça, mon frère et moi restions interdits, mais pas scandalisés. C'est ça, parce que le crime était normal dans le décor de Ville-Jacques-Cartier, comme une fonction dans un écosystème, et pour un enfant ne portant pas plus à conséquence que le choix d'un clan dans un jeu de guerre, cow-boy ou indien, policier ou bandit.
Oui. Puis il y avait du côté de mon père, c'était plus costaud.
C'était plus costaud. C'était... Il était passeur.
Oui, c'est toutes sortes de choses. Il était associé à la pègre de ce milieu-là qui était très, très, assez importante à Ville-Jacques-Cartier dans les années 50-60. Et ça, c'était ça fait partie aussi de la culture de mon silence, ma culture personnelle, de mon rapport au silence, parce qu'évidemment, quand j'allais à l'école, je disais, j'en parle aussi, la sœur m'a demandé, que fait ton père dans la
vie?
Je disais pas, mais il vient de faire un hold-up.
Il était éboueur, c'est ça. Vous aviez trouvé...
Tu as appris le mot éboueur.
Oui.
Normalement, ça n'allait pas plus loin.
Mais, et puis... Il y a aussi en page 19 là, un extrait que je voudrais. C'est de n'avoir pas eu le droit de parler qui a fait de moi un écrivain.
Oui, parce que je me suis rendu compte au fil des ans que ce qui m'inspire, moi, comme écrivain, c'est souvent de revenir sur des scènes d'enfance ou des scènes de mon passé où j'ai pas eu le droit de parler, où j'avais pas les mots pour le dire, où il y a quelque chose qui n'a pas été dit, où il y a quelque chose que je suis seul à avoir vu, puis que ça me met dans un état de révolte. Donc, c'est souvent mon geste d'écriture. À l'origine de mon geste d'écriture, il y a souvent comme une volonté de réparer un silence ou de combler un silence. Mais c'est vraiment ça Puis bon, je viens d'une génération où si tu t'arrivais à terre pendant 4 heures, c'était bien élevé, c'était bon signe. Bon, c'était on est quand même au Québec des années 50-60.
Mais oui, c'est ça.
Bon, donc c'était valorisé en plus. Mais je suis pas un écrivain artiste qui a été formé à l'expression. J'ai vraiment été formé au silence. C'est ça qui est ma pile, ma batterie pour écrire, c'est de revenir là-dessus.
Vous avez été élevé au BAF aussi, vous en avez pris quelques-unes. Je pense que papa était pas un tendre.
Oui, mais ça aussi, c'était vu comme, c'était présenté comme de l'éducation.
Oui, mais
non, mais c'est comme ça, puis... il n'y avait pas de DPJ à l'époque, puis c'était normal. Puis quand on allait du côté des religieuses, c'était pas plus drôle. Là, c'était pas des baffes, il y avait des instruments.
Oui, non, c'est sûr, exactement. Mais enfin, quand même, il n'est pas... à la fin, là, quand il se remet de son accident, dont vous pourrez nous parler. Enfin, il me semble que c'est à ce moment-là, vous trouvez un espèce de journal qu'il a écrit, en tout cas un récit. Et puis c'est écrit, puis on y arrive. Il ne fait mention de ses fils qu'une seule fois dans tout ce journal. Dans un résumé de son divorce qui dure moins de 3 lignes, on lit au milieu d'une phrase, deux gars, 11 et 13 ans. C'est tout. Pas de nom, pas même de verbe. Deux chiffres placés là avec une sécheresse d'inventaire sur l'air de une pelle, un râteau laissé avec le garage.
Oui.
Je referme le cahier. Ça, j'ai trouvé ça, moi. Je me suis prise une note et j'ai dit c'est désespérément et tristement beau. Je referme le cahier honteux. J'ai honte d'avoir cherché mon nom dans l'histoire de mon père. Que dire d'autre?
Oui. C'est ça.
Les bras m'en tombent.
Non, mais c'est en même temps, pour moi, ça a été comme une révélation parce que je me suis dit pourquoi je suis surpris. Ça a toujours été comme ça. C'est vraiment lui, c'était comme ça. Mais on attend toujours qu'il y ait le geste réparateur. Mais le geste réparateur, il vient pas. Sinon, il aurait toujours été là.
Et pourtant, moi, je l'ai imaginé quasiment, Michael Delisle, votre père, comme un espèce de petit mafioso, à un moment donné, en costume, quand il est avec Léo, là, avec celui qui est son oncle, et qu'il vous abandonne, entre guillemets, chez les Sœurs Grises, et qu'il pleure. Moi, là, je voyais tellement le couloir, le parquet ciré, vous partant d'un côté avec la sœur, et les deux là-bas, qui ne sont quand même pas des enfants de cœur, en train de pleurer.
C'est des gens sensibles.
Oui, c'est clair. Non, mais c'est ça.
Ils sont très sensibles, très émotifs. Mon père, c'est un homme très émotif.
Alors, il y avait cette vie-là, Michael Delisle, cet homme qui est dans la pègre, la maman aussi qui a une drôle de famille, et puis il y a la poésie là-dedans. Et finalement, je pense que ça n'est pas... Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il mélange ces deux éléments-là, la famille et la poésie. Puis après, à un moment donné, je me suis dit, bah oui, mais c'est normal. En quelque part, vous étiez en mode survie grâce à la poésie.
Oui, mais la poésie, c'est aussi ce qui m'a permis de me construire à partir de ce point de départ-là qui était comme un désert culturel aussi, parce que bon, dans tout ça, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de culture, il n'y avait même pas de téléviseur.
Il n'y avait rien.
Donc, la poésie, ça m'a permis de me construire aussi socialement, parce que, bon, à un moment donné, je suis devenu poète, puis c'était Michael Delisle, poète. Donc, c'était pas juste écrire des poèmes dans ma chambre, c'était aussi les publier. Donc, ça a été un instrument important dans ma construction sociale pour me, justement, émigrer de mon milieu d'origine, qui était aussi culturellement pauvre.
Il y a quelques semaines, je recevais Dany Laferrière et c'est bizarre parce que je vais vous poser la même question parce que j'ai trouvé la même chose dans ses livres. Le fait que Dany Laferrière, il dit que ce sont des femmes qui l'ont construit.
Oui.
Et vous aussi, à un moment donné, vous parlez de trois femmes qui ont été très, très importantes. Il y a une cousine à Charlevoix.
Une tante,
c'est ça.
C'est les femmes qui donnent, j'allais dire au narrateur, mais on va le dire, c'est moi, qui donnent la permission de parler. Donc, c'est la première étape pour réparer le silence, la permission de parler. Puis la permission aussi d'avoir une parole violente, curieusement, parce que quand il y a des choses à exprimer qui sont de l'ordre de vraiment comme de la cure puis de la réparation, c'est pas évident que ça va sortir très, très doux. Des fois, bon, la violence, surtout la violence esthétisée puis la violence en littérature, elle peut avoir sa place. Puis des fois, mon coup, non, ça fait partie de la vie. Mais on parle de violence qui est de l'ordre d'une force, là, d'une force d'affirmation.
Oui, bien sûr.
Le cri, mettons le cri. Donc, ces femmes-là me donnent, c'est ça, la permission de parler. Et de parler fort s'il le faut.
D'ailleurs, comment c'est Louise
Desjardins.
Louise Desjardins, que vous avez mariée d'ailleurs.
Non,
c'est pas elle.
C'est
Lise Tremblay. Excusez-moi, pardon. Toutes les femmes qui ont été importantes ne sont pas devenues vos épouses. Quoi donc?
Je n'ai juste marié une.
Mais en tout cas, Lise Tremblay, pardon, mais Louise, elle vous a dit un truc très, très beau que je vois en page 71. La seule responsabilité que tu as, c'est de réussir ta vie. Tu n'en as pas d'autre.
Oui. Il fallait que quelqu'un me le dise. Puis ça a été comme une épiphanie pour moi. Tu peux réussir ta vie, tu as le droit. Ça a été une épiphanie.
Parce que sinon, vous pensez que vous auriez...
C'est comme la permission d'être soi-même aussi. Mm-hmm. C'est comme... être soi-même, tout le monde trouve que ça va de soi, mais c'est bon, il y a toujours un moment où ça devient clair.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un livre larmoyant. Hein. Je ne voudrais pas que vous pensiez. Moi quand je dis que non, pas du tout. Il y a même des moments d'humour.
Ouais, je pense que les réflexions sur la poésie font qu'on est en mode réflexion, plus qu'en mode
D'ailleurs,
nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie, je pense, en tout cas.
Non, c'est ça. D'ailleurs, il y a un très, très beau passage sur les silences en poésie. J'aime tellement ça et en lecture, parce que moi qui éventuellement donne des cours parfois, et je dis toujours à mes élèves, mais c'est comme en musique, faites des silences, quoi. Il faut que ce soit comme une... Oui. Et vous avez un très joli passage que je ne retrouve pas là.
Les silences, c'est pas un vide.
Le silence en poésie, c'est un poète japonais qui me l'a montré bien des années plus tard en m'offrant du thé. Quand il a lu ses vers devant moi, sa voix ordinairement hésitante, presque bègue, est devenue sûre et belle. Je ne me souviens pas si sa main rythmait ses vers, mais il y avait une façon de faire ses pauses qui rendait le silence riche et prégnant. Mmh. C'est très, très beau. Je voudrais vous inviter à écouter un extrait. C'est le tout début de votre livre, tel qu'il a été lu par Jacques Tremblay pour Vues et Voix.
Je n'ai pas trouvé d'exergue pour ce livre. Une image qui donne le ton, une phrase qui trace le premier trait, un nom propre qui place le sérieux. Une phrase pour débarrer la porte. Je cherche, je ne trouve pas. Mon dépit ressemble à une déréliction. Je me sens abandonné par la littérature comme un toxicomane l'est par Dieu. On dirait que personne ne veut me donner le « là » pour avancer dans la suite de morceaux qui m'attend. Je suis seul avec les pages qui suivent.
Ça vous touche, hein?
Il a une belle voix.
Il a une belle voix,
ça fait drôle d'entendre ça.
J'imagine, avec sa voix, vous avez une très, très voix toute douce. Jacques a une voix qui s'affirme. Je voudrais, parce qu'il va bientôt être le temps de nous quitter, je voudrais dire à nos auditeurs qu'il y a d'autres livres de vous qui sont disponibles également via le SQLA. Il y a Le désarroi du matelot. Hein, ça, c'était votre premier, je pense.
Oui, c'est encore l'histoire de mon père, mais version fiction.
Bon, il y a des nouvelles. Hélène avec un secret.
Oui.
Hein, il y a ça. Nous avons aussi Tiroir numéro 24.
Un roman.
Un roman que nous avons, pour l'instant, c'est tout, mais ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas enregistrés, mais c'est déjà pas mal, qu'en pensez-vous?
Oui.
Voilà, donc c'était Michaël Delisle qui était en ma compagnie. Michaël Delisle qui, je vous le rappelle, a écrit « Le feu de mon père », lauréat du Grand Prix du Livre de Montréal, finaliste au prix des libraires du Québec, finaliste au prix littéraire des collégiens. C'est un livre que vraiment je vous recommande ô combien. Merci beaucoup, Michaël Delisle, d'être venu jusqu'à nous.
Ça me fait plaisir.
Et à bientôt. Au revoir. Restez bien assis, l'émission des livres plein les oreilles se poursuit, toujours avec Clotilde Seille au micro, et ça se poursuit en musique. Et ça va un peu vous surprendre. Stay away so long.
Alors n'ajustez pas vos appareils, vous êtes bien sur Canal M et vous écoutez bien l'émission Des livres plein les oreilles. C'est sûr que c'est le genre de musique, nous ici, Christine Picard, qu'on n'a pas l'habitude de diffuser, mais là, ça nous fait plaisir. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine, vous êtes bénévole chez Vues et Voix depuis déjà quelques années.
Tout à fait.
Donc vous lisez des livres, vous donnez de votre temps pour la lecture de livres et vous m'avez contactée en me disant, il y a un livre dont j'aimerais beaucoup vous parler, c'est le livre Les Suprêmes. Et alors moi, j'imaginais tout, sauf les fameuses suprêmes qu'on vient d'entendre.
Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai répondu à l'invitation coup de cœur. Et d'ores et déjà, je vous dis que c'est un gros coup de cœur. J'avais envie de vous parler de ce livre-là parce que ce n'est pas seulement mon coup de cœur. Toutes les personnes qui ont participé à l'enregistrement de ce livre-là, c'était toujours avec un grand sourire et c'était « Wow, quel beau livre ». Déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans le titre parce que ça nous situe d'ores et déjà. Les Suprêmes, qui fait référence au groupe musical qu'on vient d'entendre, les Supremes.
Oui.
Donc, il est question d'amitié. Elles sont trois femmes, elles sont américaines et elles sont de couleur noire. Donc, tout au long de ce récit, on commence ici maintenant, mais on se balade à travers le temps. Je pense que les amitiés sont tissées d'événements. Alors, on parcourt leur vie. Qu'est-ce qui les a rassemblés? Qu'est-ce qui font qu'elles sont encore amies? Et si on parle de femmes, vous vous douterez peut-être qu'il est question beaucoup d'hommes également. Alors, de ces hommes qui partagent leur vie. Des ex aussi qui sont parfois présents. Et une des dimensions que j'ai beaucoup aimée, c'est que c'est très coloré. Alors, j'ai eu à certains moments des éclats de rire. À certains moments aussi, c'est très touchant. Et on nous situe autant dans le temps... On parle également à des fantômes.
Oui.
Alors, il y en a une qui a quelques nuits d'insomnie et qui se réveille pour parler à sa maman, qui est décédée. Mm-hmm. Et il y a un personnage mythique d'Eleanor Roosevelt qui vient la visiter. Mm-hmm. Elle n'aime pas trop Eleanor parce qu'elle est pleine de sagesse. Elle vient cogner à la porte avec des messages et tout. Et donc, on nous situe autant dans cette ville-là parce que tous les dimanches, les Suprêmes vont à la messe. Et ensuite, c'est le repas dominical où on se gave de poulet frit. Et les hommes sont là, on a une table réservée. Et c'est tout l'environnement immédiat également qui tourne autour des gens avec qui on a eu des histoires et une telle et un tel et tout. Juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, parce qu'on est au restaurant, une des premières phrases du livre, « Je suis née dans un sycomore ». Alors, vous imaginez, je ne savais même pas qu'est-ce qu'était un sycomore.
Eh bien, moi non plus.
Alors, c'est un arbre, c'est une variété d'arbres. Et notre héroïne, Odette, est née dans un sycomore. Et déjà, ça trace le livre, l'imaginaire de cet auteur-là. D'ailleurs, je trouve ça fabuleux parce que c'est son premier livre. Il est violoncelliste de Chicago, Edward Kelsey Moore. Et déjà, il est en train d'écrire la suite. Alors, j'espère sincèrement qu'il y aura une suite. Les gens qui ont beaucoup aimé la lecture de ce livre-là projettent déjà peut-être d'ailleurs qu'il y aura un film.
Ah bon?
Donc, comme je vous disais, ben, c'est triste, c'est drôle, c'est la vie, quoi. C'est l'amitié. Et on pense aussi au travail d'un pan de l'histoire américaine qui n'a pas toujours été rigolote. D'ailleurs, il y a un des personnages qui souhaite être la première femme noire à accoucher dans un hôpital public.
Oui.
Alors, on est dans cette époque-là. Mais jamais c'est dit avec regret, c'est pas sous fond politique. Mm-hmm. C'est vraiment la vie était comme ça. Donc, voici ces femmes-là, tout le parcours qu'elles ont fait. Elles sont quinquagénaires maintenant, donc elles ont vécu plusieurs décennies.
Les fameuses quinquas, comme on les appelle maintenant.
Oui, tout à fait.
Et elles sont elles-mêmes en amour avec les Supremes. Je veux dire, est-ce que le groupe, les Supremes, fait partie de leur vie à ces femmes-là?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, elles étaient toujours ensemble, toutes les trois. Et c'est leur environnement à l'école, au high school, qui les ont baptisées les Suprêmes, et c'est resté.
Okay.
Parce que plusieurs années plus tard, elles sont encore ensemble, main dans la main, au travers les joies, les peines.
Et les peines de la vie, parce que ce n'est pas un livre que léger. Enfin, je veux dire, il y a des sujets lourds. À un moment donné, je pense qu'il y en a une qui traverse une période où elle est malade, c'est bien ça?
Oui, il y a des questions de décès, d'enfants, de proches et tout ça. Ce que j'ai aimé également, je lisais pas plus tard aujourd'hui, c'est pas de la littérature chick lit féminine comme on a connu ces dernières années. C'est pas aussi léger et en même temps, comme je vous disais, c'est pas moralisateur non plus. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne voit pas venir les choses. À un moment donné, je me disais, bon, ça y est, j'ai beaucoup aimé, c'est agréable, mais je sais où on s'en va et non. C'est pas prévisible du tout. On embarque vraiment. Et d'ailleurs, comme il est dit sur la couverture du livre, et je trouve ça très accrocheur, elles vont devenir vos meilleures amies.
Ah oui. Hein?
Et c'est ça qu'on sent d'emblée dans les premières pages, elles sont attachantes.
Autrement dit, quand on referme le livre, on a hâte à un second tome. On se dit, oh, on veut en savoir plus ou pas?
Est-ce oui, tout à oui, fait, parce que la vie n'est pas terminée, en effet.
Mais non.
Elles ont des enfants. Oui. Elles ont dans la cinquantaine au moment où on les rencontre.
Oh, ça va faire une série, ça!
Tout à fait. Oui, peut-être plus qu'un film, d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes mis sur les rangs pour lire à ce moment-là le tome 2, le tome 3? Parce que ça, il faut leur dire tout de suite à côté, là, vous le savez. Hein.
Ben, pas encore, mais je le souhaite ardemment.
Est-ce que vous lisez beaucoup? Parce que vous avez une très jolie façon, Christine, de parler des livres, et je vous en remercie. Je vous écoutais parler, puis vraiment, c'est très, très beau. C'est très, très bon. Vous donnez envie de lire le bouquin. Vous n'êtes pas du tout dans ce milieu-là, dans la vie. Mais vous êtes une grande lectrice, en dehors du fait que vous lisez à voix haute ici?
Tout à fait. J'ai toujours un livre qui m'accompagne. Et d'ailleurs, je me disais que ce livre-là probablement ne gagnerait jamais de prix, mais que ça prenait des livres pour toutes les occasions, pour tous les moments de la vie, pour les vacances, pour le quotidien, pour décrocher.
Et celui-ci, il serait pour quel moment alors?
Peut-être un moment de vacances ou de table de chevet, des amis qu'on retrouve le soir ou un matin de fin de semaine avec le café au lait. On mm-hmm. ouvre le livre pour... Mm-hmm. pénétrer dans leur quotidien.
Dans leur quotidien.
Ouais.
Très, 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 très beau moment. Je suis contente. C'est la première fois que vous participez à cette émission. Et je vous le dis très honnêtement, j'espère bien, Christine, que ce ne sera pas la dernière. Vraiment. Alors, on verra ce que l'avenir vous réserve au niveau de vos lectures chez Vues et Voix. Mais je prie le ciel pour que vous soyez emballés par une autre de vos lectures prochainement et que vous puissiez venir nous en reparler. J'en serais vraiment ravie. En attendant, je vous propose et je propose, avant qu'on se dise au revoir, d'écouter un extrait de ce livre-là dont vous avez parlé. Est-ce qu'il faut, le dire, Les Suprêmes, parce qu'on ne le prononce pas à ce moment-là à l'anglais.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un accent circonflexe
voilà,
sur
exactement.
Le E, alors on le
voilà.
dit. Et la traduction est très bien faite également.
Bon, et je voudrais rappeler que c'est signé... Alors, Edward Kelsey Moore, c'est une femme.
Non, c'est un homme.
C'est un homme. Ah, OK, je pensais avoir
et
entendu
c'est
la violoncelliste.
Il s'est inspiré des femmes okay. de sa vie, de sa mère et de
okay,
ses sœurs.
D'accord.
Parce que c'est toujours touchant quand un homme peut écrire de façon si admirable sur les
Bien
femmes.
Sûr.
On se demande, mais qui a inspiré cet homme? Alors voilà, c'est les femmes de sa vie à lui.
Alors, Edward Kelsey Moore. Kelsey Moore, ben Moore, comme on le voit souvent écrit en anglais, M-2-O-R-E, Kelsey, K-E-L-S-E-Y, et puis Edward comme Edward. Merci beaucoup, Christine Picard. On se quitte
Merci
sur
de m'avoir accueilli.
Je vous en prie, on se quitte sur cet extrait de votre lecture de Les Suprêmes. I need love, love, to ease my mind. I need to find someone to call mine. When mama said, can't hurry love. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. Can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust. Je me réveillais en nage ce matin-là. J'avais dormi profondément, ma chemise de nuit me collait à la peau, le visage me picotait. Troisième fois cette semaine. 4h45 luisait au réveil, posée sur la coiffeuse à l'autre bout de la chambre. J'entendais le ronronnement du climatiseur et sentais l'air me caresser les joues. Avant de me coucher, j'avais réglé le thermostat sur 16. Pourtant, tout en moi hurlait qu'il faisait au moins 50 degrés. Je soulevais ma chemise de nuit et la laissais retomber pour faire glisser un peu d'air sur ma peau. Peine perdue. Mon amie Clarisse prétendait que la méditation et la pensée positive l'avaient aidée à traverser la ménopause et elle n'arrêtait pas de me tanner pour que j'essaie à mon tour. Je me tins donc immobile dans la pénombre de l'aube naissante pour me rafraîchir l'esprit. Et c'est l'heure de la bande-annonce. De
deux invités dont j'ai envie de vous parler pour la semaine prochaine. D'abord, Gérald Cousineau, qui va nous parler de Disgrâce, de John Maxwell Coetzee. Je pense qu'on prononce comme ça. Il s'agit d'un écrivain d'Afrique du Sud. Et l'histoire, eh bien, c'est l'histoire de David Lurie, qui est un cinquantenaire, qui se tape volontiers des petites étudiantes jusqu'à un moment donné où ça le rattrape. Et eh bien, il est exclu de l'université pour avoir harcelé sexuellement une étudiante. Et donc, il entre en disgrâce. Il va se réfugier chez sa fille. Sa fille Lucie, qui tente de collaborer avec un régisseur noir ambitieux, je vous rappelle qu'on est en Afrique du Sud, pour réussir une exploitation agricole. Et David, son père, est renvoyé à sa propre ignominie parce que sa fille est en train de vivre, ou du moins a vécu, peu de temps auparavant, la tragédie d'un viol, et tout d'un coup, ses certitudes s'effondrent d'un coup. C'est de ce livre dont va nous parler Gérald Cousineau. Je dois dire que c'est un livre qui a fait l'objet d'un film il y a quelques années de Disgrâce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était John Malkovich qui jouait le rôle de David Lurie. Et puis, je vais avoir une autre invitée la semaine prochaine et je suis très contente.
Viens, mon amour, avant l'orage. Ne vois-tu pas les nuages, comme il fait soudain si lourd? Viens, vole vite à perdre haleine, sous la terre encore sereine, je sens le torrent qui s'ouvre.
Oh, pourvu qu'elle vienne avec sa guitare, peut-être, Bia, car c'est bien de Bia dont il s'agit. Bia, que vous connaissez certainement comme chanteuse, elle chante à peu près dans 5 ou 6 langues différentes, elle qui a si souvent voyagé, née au Brésil, mais qui a suivi ses parents un petit peu partout autour de la planète et qui finalement maintenant vit à Montréal depuis maintenant pas mal de temps. Eh bien, Bia, que vous connaissez peut-être moins, sous son vrai nom, Bia Krieger, en tant qu'auteur, et Bia a déjà écrit un livre qui s'intitule « Les révolutions de Marina », et c'est un livre qu'on retrouve au SQLA. Il a été enregistré. L'histoire, bon, d'abord le titre, hein, je vous l'ai déjà donné, « Les révolutions de Marina ». Cette Marina qui a 12 ans, cette Marina qui adore son père, qui est un si bel homme, qui fume avec tant d'élégance virile, qui sait charmer les femmes avec sa voix profonde. Eh bien, elle voit bien qu'il veut lui annoncer à un moment donné une grande nouvelle, une nouvelle qui causera une révolution dans leur vie. Et oui, encore une, car des révolutions, elle en subira pas mal, l'amie Marina, et c'est d'ailleurs ce qu'elle nous raconte dans ce livre. On nous propose ici sur un site de pouvoir feuilleter un petit peu ce livre de Bia. Laissez-moi regarder comment ça commence. Qu'est-ce que vous en pensez? Les premiers mots des révolutions de Marina. Lorsque mon père m'annonça que nous allions manger ensemble en tête-à-tête au restaurant, j'ai compris que l'inévitable venait de se décider. J'avais 12 ans et ce moment glaçant me pendait au nez depuis longtemps, plus longtemps même que je n'en pouvais avoir connaissance. Cependant, je ne fus pas suffoqué de douleur ni paralysé sous une déferlante d'images d'un avenir catastrophique. Elle viendra nous dire exactement ce qu'était cette mauvaise nouvelle et cette première révolution, une première des révolutions de Marina, sortie aux éditions du Boréal il y a maintenant quelques années et écrite par Bia, qui sera donc mon invitée la semaine prochaine. Voici le prétexte, une exposition qui sera présentée du 8 décembre 2015 au 17 avril 2016 au musée de Pointe-à-Calière. Mais de quelle exposition je parle? Eh bien d'une exposition qui s'intitule « Sur les traces d'Agatha Christie ». Voici donc le prétexte pour vous reparler de cette géniale auteure de polar qu'était Agatha Christie. Cette exposition... c'est une découverte en fait, vous allez découvrir énormément de choses d'Agatha Christie à travers son œuvre, à travers son imaginaire, à travers ses univers aussi, dont celui de l'archéologie. C'est une expo qui est présentée en exclusivité, réalisée par Pointe-à-Calière, qui va présenter des objets provenant de musées de renommée mondiale tels le British Museum de Londres, le Metropolitan Museum of Art de New York et le Musée Royal de l'Ontario de Toronto. Une exposition qui regroupera des pièces uniques et précieuses de la romancière appartenant encore aujourd'hui à la famille d'Agatha Christie. Faut-il le rappeler ? L'œuvre d'Agatha Christie comprend 66 romans policiers, 6 romans, 150 nouvelles, 18 pièces de théâtre et 2 livres de souvenirs. Hein ? On estime les ventes totales de ces livres à 2,5 milliards d'exemplaires. Seule la Bible et les œuvres de Shakespeare ont dépassé ce nombre. Surnommée la reine du crime, elle a également, vous le savez, créé des personnages inoubliables comme les détectives Hercule Poirot et Miss Marple, alors que son œuvre colossale a aussi inspiré de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le destin de cette femme imaginative et aventureuse, ça on le sait, est intimement lié à l'archéologie, qui a joué une part importante en effet dans sa vie personnelle et professionnelle. D'ailleurs, il faut dire qu'elle a été mariée à un moment donné à un archéologue très très célèbre qui a apporté une contribution significative à la chronologie préhistorique de la Mésopotamie. Alors, Agatha Christie s'est largement inspirée de cet univers de l'archéologie et de l'histoire pour l'écriture de plusieurs de ses romans, dont Meurtre en Mésopotamie, Rendez-vous à Bagdad également, Rendez-vous avec la mort, il y avait aussi La mort n'est pas une fin. Et elle a raconté son quotidien sur les chantiers de fouilles dans l'ouvrage « Dis-moi comment tu vis », qui est aussi connu en français sous le titre de « La romancière et l'archéologue ». Agatha Christie, qui a d'ailleurs écrit qu'un archéologue et un détective ont beaucoup en commun. L'un et l'autre doivent comprendre un événement, survenu récemment ou non, en se basant sur leur sens de l'observation, sur la mise au jour d'indices et la relation entre ceux-ci, et aussi sur la chance. Alors, Sur les traces d'Agatha Christie propose un étonnant voyage à travers des époques où de nombreux trésors du patrimoine de l'humanité ont été découverts et une rencontre avec une femme passionnée et allumée qui a inventé un nouveau genre littéraire, le roman policier. Historique. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire la nomenclature de tous les livres d'Agatha Christie qui sont disponibles. Il y en a par dizaines. Donc, si cela vous tente de retomber dans son univers, eh bien, ne vous gênez surtout pas. Alors ça, c'est pour les classiques, mais il y a de la nouveauté aussi. Et qui dit nouveauté, dit des livres en rafale. Allez, on va commencer par « Vie et mort du couple, du dating au divorce ». C'est signé Geneviève Peterson, si vous voulez faire l'autopsie d'un couple comme elle-même, elle l'a fait, Geneviève Peterson. Je vous propose ce livre. On passe par quoi? On passe par la magie du début, lorsqu'on a les jambes dans du coton et qu'on a le cœur qui se pleut plus. La vie à deux, hein, les rénovations. Oh, ça fait mal dans un couple, les rénovations. Mais alors, que dire des poils de barbe dans l'évier? Oh, ça aussi, ça fait mal. La grossesse, eh oui. Et puis le sexe après les enfants, ça c'est un sujet compliqué aussi. L'infidélité, du coup, la jalousie, les assiettes brisées, bref, le party de divorce. Voilà, alors on passe en gros par toutes ces phases-là dans « Vie et mort du couple, du dating au divorce » de Geneviève Peterson. Madame Chose aborde tous les sujets sans tabou et écorche au passage certaines idées reçues sur la vie à deux. Ce n'est pas un guide pour réussir sa vie amoureuse, on vous le dit tout de suite, Madame Chose y fait plutôt une radiographie irrévérencieuse du couple et de ses travers, un scan de son quotidien qui, disons-le, finit souvent par avoir raison des meilleurs. La voilette de ma mère, c'est signé Nadine Trintignant. Oui, Nadine Trintignant, comédienne, la maman de Marie Trintignant, à qui il est arrivé ce que l'on sait, on s'en souvient. Le résumé de ce livre, La voilette de ma mère, c'est une mère qui a les deux pieds sur terre, un père, 2 mètres au-dessus du sol, qui se complétait à merveille. Et à nous, écrit Nadine Trintignant, leurs 6 enfants, ils ont légué un solide sens de la vie, une énergie, une liberté, qui nous a tous aidés au long de nos différents chemins. Notre enfance s'est passée au jour le jour, même en pleine guerre. Nous n'avons pas eu une maison, nous en avons eu plein. Joyeuse pagaille que j'ai tant aimée. J'ai aimé mes fièvres grâce auxquelles je sentais la main fraîche de maman sur mon front. J'ai aimé, écrit Nadine Trintignant en parlant de sa mère, être patraque et passer des matinées dans sa chaleur à plat ventre sur elle. J'ai aimé les voyages, les chansons dans la voiture, les folles promesses d'un père imaginatif. Les mots cafards, blues, chagrin, c'était proscrit chez nous. Chaque jour était une fête, les hauts étaient vécus, comme les bas, avec insouciance. Maman nous fit des adieux magnifiques, une grande comédienne. Courageuse, capricieuse et coquette jusqu'à la fin, je la revois sur la promenade des Anglais à Nice, souriante sous son nouveau chapeau à voilette, qui l'enchantait. On nous dit ici que c'est un livre touchant et tendre en hommage à sa mère, c'est une critique de Culture Box. Et dans l'Express, on nous dit que ça a été le dernier projet de Nadine Trintignant qui est sorti en librairie au mois de mai 2014. La voilette de ma mère, ça a été un livre commandé par sa maman. Et son écriture a été bouleversée et reportée par le décès de Marie, qui avait alors 41 ans. Les mots qu'on ne dit pas, de Véronique Poulain. Poulain comme un poulain, ça s'écrit P-O-U-L-A-I-N. Peut-être avez-vous raté la famille Bélier au cinéma. Eh bien, c'est de ce livre-là dont on a tiré ce film, qui commence, et le livre et le film, par « Salut bande d'enculés ». Non, pardon, je ne voudrais pas être trop grossière, mais c'est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison. Mes copains ne me croient jamais quand je leur dis qu'ils sont sourds, je vais leur prouver que je dis vrai. Alors du coup, elle les salue tous les matins, la fille, pendant que sa mère est en train de faire la cuisine à grand renfort de bruit, parce que comme sa mère n'entend pas, on a les gros bruits de casserole dans le film, bing, bang, boum, paf, et la môme, elle est entendante. Et à chaque fois, elle se tape. Alors elle arrive, puis elle leur fait « Salut, bande d'enculés !» C'est vraiment très drôle. Lisez ce livre-là. Tout y est. C'est sans tabou, avec un humour corrosif. Elle raconte son père sourd-muet, sa mère sourde-muette, son frère aussi. On parle de sorties, de vacances, de sexe. Oh, j'ai une petite citation pour vous, extrait de ce livre « Les mots qu'on ne dit pas » de Véronique Poulain. Dans la langue de mes parents, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas d'adverbe, il n'y a pas de proverbe, il n'y a pas de maxime, ni de dicton. Pas de jeu de mots, pas d'implicite, pas de sous-entendu. Elle dit, déjà qu'ils n'entendent pas, comment voulez-vous qu'ils sous-entendent ? Un autre livre que j'ai à vous suggérer, J'ai vu mourir Kennedy, c'est de Claude Coulombe. On nous parle d'un petit garçon, Anthony Rosen, âgé d'à peine 3 ans, égaré, qui se retrouve par le plus grand des hasards à Dallas, parmi la foule qui assistera à l'assassinat du président John Kennedy dans de nébuleuses circonstances. On s'en souvient. Et dans la cohue, il y a une jeune inconnue qu'il prend par la main et qui l'éloigne des lieux de la tragédie. Et une fois devenu journaliste à Montréal, Anthony tente, 45 ans, de retrouver cette femme qui, selon les informations qu'il détient, s'appelle Alice. Alors c'est un premier roman de Claude Coulombe, paru en 2014. C'est un vrai thriller basé sur des faits historiques. Grâce à « J'ai vu mourir Kennedy », un lecteur dit que on voyage dans le temps en plus d'être ballotté sans merci de la France aux États-Unis en passant par le Québec. Ça, faut aller le chercher, ne serait-ce que pour le titre. Appelez-nous pas ma tante. C'est de Francine Gauthier, G-A-U-T-H-I-E-R. Appelez-nous pas ma tante. C'est un hommage ludique au Superwoman de 50 ans. Avec Appelez-nous pas ma tante, publié cet automne chez les éditeurs réunis, Francine Gauthier délaisse le livre jeunesse. C'est une première incursion réussie du côté des adultes avec cette histoire d'amitié entre femmes cinquantenaires. C'est un roman choral à quatre voix où s'entremêlent les aventures de quatre amies d'enfance qui ont chacune un passé, ma foi, assez lourd. Il faut rappeler que dès sa parution, Appelez-nous ma tante s'est hissé sur tous les palmarès pendant à peu près 2 semaines. L'auteur qui dit « Je trouvais important de parler de la réalité de la cinquantaine chez les femmes », d'affirmer donc Madame Gauthier, qui est âgée elle-même de 60 ans, « Le regard sur nous change », elle dit. Elle dit, je me concentre toujours sur la qualité de l'écriture, de souligner celle qui travaille actuellement à un polar et un autre récit qui portera sur l'itinérance et les sans-abri. J'imagine qu'on va l'enregistrer aussi. Alors voici mes amis, c'est sur cette rubrique des titres en rafale que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Fin de cette émission des livres plein les oreilles. Je remercie mon ami Mathieu Tessier qui m'a accompagné une fois de plus. Remerciements aussi à tous les amis qui ont participé à cette émission. Je pense à Janine Vanier, je pense à Michael Delisle et je pense à Christine Picard. Et puis vous qui êtes là de l'autre côté des ondes, on vous sent bien présent, on travaille fort pour vous. Et j'espère qu'on vous aura donné de bonnes idées de lecture. Alors passez une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec Bia, notamment, et Gérald Cousineau. Salut !